sentire.
Dans cette release de CPU, des passionnés, un thème technologique, un vidéoprojecteur et des boissons. L'équipe aujourd'hui, Jérémy, Bart et Thomas Gasque. Leurs invités sont Marie-Pierre Pimpon-Lavoie, Lauriane Anthony, Loïc Talon et Thomas Fraisse. Et j'espère que tout le monde a mis son téléphone sur silencieux. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Dans l'équipe de CPU, cela fait un moment que nous comptions parler des meet-up, et il se trouve que nos amis de Montpellier qui produisent Ça fait écho, une émission en live sur YouTube, a justement travaillé dessus. Pour cette émission de CPU, nous reprenons des extraits de l'émission de Ça fait écho sur le rôle des communautés et des meet-up dans la construction d'un écosystème logiciel local. Et pour une fois, on va parler de Montpellier et pas de Toulouse, ça nous changera un petit peu. Sont invités sur ce plateau Marie-Pierre Pimpon-Lavoie, organisatrice des meet-up UX Flupa, ergonome, UX designer chez Genapi, Lauriane Anthony, vice-présidente de Montpellier Tech Hub, bénévole de SunnyTech, software engineer chez Launcher, Loïc Talon, président de SunnyTech, VP engineering chez Adagio, et Thomas Fraisse, directeur général de French South Digital. Le plateau est mené par Jérémy Barthe avec des sujets de Thomas Gasque. L'intégralité de leur émission est disponible sur le site safeecho.fr ou sinon suivez la fiche de cette émission sur notre site cpu.pm.
Bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Ça fait écho, l'émission sur la tech en live et en public. Avant de se lancer dans l'émission Ça fait écho, l'équipe s'est connue en organisant des meet-up à Montpellier. Ça a été une belle aventure pendant plus de 3 années. Nous avons organisé une trentaine de meet-up. Et également d'autres événements de plus grande ampleur. Si organiser ces événements est chronophage, fatigant, que ce soit humainement, professionnellement et également techniquement, nous avons tous beaucoup appris, nous avons énormément apprécié cette expérience, nous avons partagé, échangé, et il en ressort que animer une communauté, ce n'est pas simple, mais c'est quelque chose d'extrêmement utile et que l'on qualifierait d'indispensable pour l'écosystème local. Donc, on a décidé de vous parler de ça ce soir, ici dans l'espace French Tech de Montpellier, pour ce second épisode de Ça fait écho, que nous avons intitulé « Vie locale tech et communauté du numérique ». Donc, dans un premier temps, nous recevons des organisateurs de meet-up. Nous verrons avec eux comment fonctionnent et s'organisent ces rencontres. Et aussi comment ces communautés ont décidé ici à Montpellier de s'organiser, de mutualiser leurs moyens. Donc nous allons discuter de ça avec Lauriane et Marie-Pierre. Puis dans une deuxième partie, nous nous intéresserons aux relations qui peuvent exister entre les communautés tech et les communautés business. Nous parlerons du nouveau cycle de conférences montpelliérain nommé SunnyTech, ainsi que du cluster d'entreprise French South Digital, avec Loïc et Thomas. Donc pour cette première partie, nous allons voir qu'est-ce qu'un meet-up, qui les organise et pourquoi. Je vous propose dans un premier temps de regarder un petit reportage réalisé par Thomas Gasque, qui a parcouru les meet-up ces derniers mois en allant à la rencontre de ceux qui les font.
Dans le secteur du numérique, les gens se retrouvent régulièrement, en début de soirée, pour discuter de leur métier. Réunis autour de conférences ou d'ateliers, ces moments sont pour eux l'occasion de partager leurs connaissances sur des technologies parfois complexes. Il s'agit des meet-up, de l'anglais to meet up, faire connaissance. L'engouement pour ces meet-up est croissant. À Montpellier, le site Tech Meet-up recense en moyenne 10 rendez-vous par mois, avec un total de 143 événements en 2017. Chacun de ces événements peut réunir jusqu'à plus de 100 personnes.
Vous
J'avais commencé du coup travailler avec les technologies Big Data, Spark, et même s'il avait la documentation, les ressources sur Internet, il avait certaines questions qui étaient très techniques, très avancées et auxquelles je ne trouvais pas les réponses. Et du coup, je me suis dit que si on a le Meetup à Montpellier, peut-être on pourra trouver les gens qui travaillent sur les mêmes problématiques, avancer ensemble, etc. Et en fait, à partir de première Meetup déjà, j'ai pu voir qu'effectivement, il y a plein de gens à Montpellier qui travaillent avec Spark, Big Data, et on se pose les mêmes questions. Des fois, les gens qui trouvent les réponses plus tôt que les autres, et donc, et comme ça, c'est parti. Déjà, le concept des Meetup, il est assez génial, je trouve. Et en fait, le concept des Meetup, c'est un peu comme un terreau. Et du coup, les speakers, les participants, et même les boîtes qui hébergent les Meetup, c'est un peu comme les plantes, les fleurs qui poussent sur ce terreau. Et nous, les organisateurs, on est un petit peu les jardiniers qui arrosent ces plantes, qui les taillent un petit peu. En fait, comme les jardiniers, on a le plaisir à voir que ces plantes, elles poussent. Et voilà, c'est quelque chose que tu vois, que c'est outil, que les gens, ils sont satisfaits. Et que voilà, et on est fiers qu'à Montpellier, il y en a autant de gens qui sont passionnés par la programmation fonctionnelle, Big Data, Data Science et plein d'autres domaines des numériques aussi. Du coup, voilà, c'est un petit peu... qui nous motive aussi.
En fait, quand j'ai organisé le premier événement, je pensais que je serais tout seul, vraiment. Et en plus de ça, je connaissais aucun développeur sur Odess. Et en fait, agence web, créateur de logiciels, agence de voyage, siège social de plusieurs grosses sociétés, site e-commerce, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de boîtes qui avaient des développeurs et qui ont été bien plus nombreux que ce que j'imaginais. Et on se retrouve à 11 autour de la table, et là je prends une grosse claque. Parce qu'on se retrouve à 11 autour de la table, mais 11 développeurs passionnés, super motivés et qui aiment partager leur savoir et leur retour d'expérience. On fait une conférence sur un thème bien précis, un framework par exemple, et on le fait directement enchaîner par un atelier afin de mettre en pratique ce que l'on a vu dans la conférence pour mieux l'assimiler. Pour réaliser ces conférences, il faut une chose, enfin, il faut deux choses. Une salle avec un vidéoprojecteur. Et là, ça se corse un peu. Dans une agglomération de la taille de Rodez, trouver une salle avec un vidéoprojecteur gratuit, même pour une association, c'est impossible. Mais donc, il faut qu'on trouve l'argent pour louer la salle et en plus de l'argent pour un vidéoprojecteur. Et là, on est forcé du coup de trouver un mécène pour concrétiser notre projet.
Enfin, je pense que pour le Meetup, ce qui est le plus important, après les speakers et tout ce qui est les participants, c'est les salles. Parce que voilà, il faut organiser le Meetup quelque part et avoir un rétroprojecteur si on veut projeter, ou avoir un endroit calme si c'est un hackathon, un truc comme ça. Et donc on avait pas mal de difficultés à la base sur ça. Et du coup MTH, on a un réseau de salles qu'on peut contacter. Enfin, on peut avoir même un sponsoring pour payer la salle, pour avoir la salle plus calme. Donc, l'assurance aussi qui va avec.
Voilà, donc, on a la chance aujourd'hui, dans cette émission, d'avoir, dans les invités et dans le public, de ces organisateurs, de ces passionnés, de ces jardiniers et jardinières, comme disait Anastasia. Nous avons Marie-Pierre Pipon-Lavoie.
Bonjour.
Qui est organisatrice de Meetup UX Flupa, ergonome et UX designer à Genapi.
Oui, exactement.
Ok. Et nous avons Lauriane Anthony.
Bonjour.
Qui est vice-présidente de Montpellier Tech Hub, bénévole à Sony Tech et software engineer chez Luncher. Et donc, j'ai une première question pour toi, Marie-Pierre.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui t'a donné envie d'organiser des meetups ou du moins de participer à l'organisation de ces meetups?
En fait, mon cas à moi est un peu particulier parce que je viens de Montréal, en fait. Et à Montréal, bon voilà, le réseau en UX est quand même assez, c'est immense. On a beaucoup d'événements. C'est pas nécessairement des meet-ups, c'est vraiment. On a un événement qui s'appelle Tout le monde UX et c'est des conférences. On en apprend beaucoup. On fait beaucoup de réseautage. Et quand je suis arrivée à Montpellier en juillet dernier, en fait, je connaissais personne. Donc j'ai vu sur l'application des meet-ups qu'il y avait un meet-up sur le UX, je me dis, ah ben pourquoi pas. Donc je me suis présentée au premier meet-up qui était l'été dernier à la maison d'une des organisatrices de l'époque et j'ai trouvé des gens vraiment incroyables et je me suis dit, bah pourquoi pas quoi. En fait, il y avait déjà une place qui, en fait, il y a une personne qui montait sur, je crois que c'est toi, c'est Estelle, qui montait sur Paris. Donc on m'a dit, bah si ça tente de t'impliquer, on aimerait bien que tu t'impliques avec nous. Donc je me suis dit, bah oui, en fait, je pourrais amener un peu mon expérience de Montréal avec tout ce qui se passe. Comme le UX, c'est quand même un milieu qui est pas très connu, ça commence quoi en France à être connu sur Montpellier et tout, donc je me suis dit bah pourquoi pas participer et en même temps ça me permet de rencontrer des gens du milieu.
Et donc par rapport à ce qu'on a vu dans le reportage, est-ce que ça t'a parlé, est-ce que ça se passe comme ça l'organisation de meet-up chez UX Flupa, ou est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, c'est sûr que c'est une belle expérience, ça nous permet de rencontrer beaucoup de personnes. Il y a certaines difficultés qu'il faut faire face, comme trouver les salles, justement. Je pense que ça, c'est vraiment la plus grande difficulté. Mais je pense que plus ça va, mieux c'est. Les gens, ils commencent vraiment à être intéressés. On a commencé à faire des calls sur LinkedIn pour savoir est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés, justement, à nous recevoir. On a le Digital Campus qui nous a contactés, justement, parce qu'eux, ils ont des étudiants. Et je crois que c'est à l'automne prochain, ils commencent un nouveau programme en UX à la maîtrise, donc pour eux c'était bah oui, mais évidemment on veut que vous fassiez nos meet-up chez nous et tout, donc ça c'est ouais, c'est bien.
Donc ce qui est bien, c'est que tu commences à être démarché par des salles pour accueillir des
meet-ups. Oui, exactement.
Alors que pendant longtemps, c'était l'inverse.
Exactement. Avant, il fallait vraiment. Après, moi, ça fait pas si longtemps que je suis ici, donc ça fait un an que je suis dans les meet-ups de Montpellier. Mais après, oui, au début, je m'en souviens, on allait à la baraque à jeux, on allait dans des bars, on allait dans la cour arrière, dans le jardin des gens. C'était très, très, très intime et très, très privé. Et depuis un moment, en fait, on se rend compte que ça devient de plus en plus pro, en fait. On se rend compte qu'il y a des gens de plein de sphères qui se joignent à nous. On avait fait en janvier dernier un challenge. Et on avait eu une quarantaine, une soixantaine de personnes. Et après, on s'est dit, bon, ça fonctionne bien, les ateliers, en fait. Les gens aiment beaucoup apprendre. Donc, on a commencé à faire une suite, en fait, pour découvrir les process vraiment du UX. Et on a accueilli... il fallait qu'on ferme les groupes à un moment donné parce qu'on avait trop de monde, en fait. On était rendu à 40 personnes, 50 personnes. On avait une dizaine, quinzaine, vingtaine de personnes même sur la liste d'attente. Donc, on s'est dit, OK, ouais, y a vraiment une demande, quoi.
Du coup, ça m'évoque une question pour toi, Lauriane. C'est avec Montpellier Tech Hub. Le but, c'est de promouvoir les meet-ups. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur qu'est-ce que Montpellier Tech Hub et surtout son origine?
Alors, Montpellier Tech Hub est assez récent. Il a un an à peu près. Ça fait un an qu'on l'a mis vraiment en place. Et le problème de départ qu'avaient plusieurs organisateurs de meet-ups, c'est, comme on l'a déjà dit, trouver des salles, mais aussi parfois avoir une assurance et avoir des sponsors financiers. Si on n'a pas d'entité en France, on peut pas, comme une association, on peut pas avoir de sponsors financiers. Donc du coup, est émergée l'idée de créer une association en fait qui pourrait regrouper des meet-ups et qui leur permettrait d'avoir accès à un compte bancaire, accès à une assurance et pour aller plus loin, même accès à une communauté où entre les meet-ups, on se fait un peu de publicité, on permet de se faire connaître plus facilement, ce genre de choses.
Ça marche. En quoi, selon toi, c'est important d'avoir une communauté comme ça, locale, d'avoir autant d'événements, d'avoir même carrément comme ça, on va dire un cluster de meet-ups, vu qu'on parlera plus tard de cluster. En quoi tu trouves que c'est si important pour l'écosystème local?
Je trouve que c'est important parce que à Montpellier, on a une communauté tech assez forte. Il y a pas mal de meet-up qui arrivent tout pratiquement tous les mois. Il y a des nouveaux meet-up, il y a plein de choses. Et comme je l'ai dit, c'est pas toujours évident de créer son meet-up. Et le fait d'avoir une association qui aide, ça va aussi inciter d'autres personnes à créer des meet-up, à venir faire des conférences. Ça permet d'apprendre, de partager son savoir, d'apprendre vraiment de faire évoluer tout l'écosystème tech de Montpellier, tout simplement.
Parfait. Et donc, imaginons que je veux créer un meet-up demain, ou que je suis chez UX Flupa, et que je veux me faire aider par mon Polytech Hub, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Alors, c'est assez simple, en fait. Sur notre site internet, on a un formulaire de candidature. Donc, il suffit de nous expliquer un peu les motivations, l'antécédent, si on a déjà fait des meet-ups ou pas, si c'est un tout nouveau, ce genre de choses. Et après, en interne, on va en discuter et accepter ou non la candidature. Bon, pour l'instant, on n'a jamais eu de refus. Et donc, une fois que c'est accepté, bah, c'est bon, le meet-up fait partie de l'association et a accès à notre panel de salles, accès à un compte bancaire, peut éventuellement demander des subventions chaque année pour payer des speakers, par exemple, qui viennent d'un autre pays ou tout simplement de l'autre bout de la France.
Du coup, par rapport à toi, Marie-Pierre, qui organise des meet-up avec UX Flupa, est-ce que tu as eu, on parlait tout à l'heure des salles, mais est-ce que voilà, tu as rencontré des problématiques dans l'organisation des meet-ups, que ce soit dans le fait de trouver des salles, que ce soit dans les financements, est-ce que tu as eu ce style de problème et est-ce que mon Polytech Hub finalement répond à ton besoin ou finalement pour toi ça n'a pas changé?
Bah, en fait, c'est sûr que Flupa, c'est particulier, parce que nous, on fait vraiment partie d'une association professionnelle. D'ailleurs, le siège social se situe au Luxembourg. Donc, on a déjà à la base un certain budget. Mais c'est vrai que si je me mets à la place d'un petit meet-up, par exemple, sur Montpellier, par exemple, pour je sais qu'il y a un meet-up agile ou, bon, voilà, des meet-ups comme ça, je sais que ça peut représenter des coûts. Par exemple, louer une salle, nous, on a eu la chance parfois d'avoir des gens qui sont proposés pour nous offrir la salle en échange de faire connaître l'entreprise. Mais ça, je pense que c'est vraiment, on est chanceux vraiment d'avoir eu ça. Et souvent, une salle peut être excessivement très chère. Ça peut être 200 euros, des fois en montant, juste louer une salle. Et en plus, on se dit, bah, c'est un apéro, quoi. Donc, il faut acheter à manger du vin, des cidres, de la nourriture. Donc, nécessairement, ou si on veut faire venir un conférencier aussi, il faut dédommager le transport. Bon, ça peut, la facture peut être facilement, peut monter assez rapidement. Donc, c'est clair que d'avoir une aide comme ça, c'est primordial, quoi. Si on veut vraiment participer à l'épanouissement technologique à Montpellier, quoi.
D'accord. Et donc, dans le cadre de Flupa, donc vous avez la chance d'avoir cette association qui vous donne une enveloppe, en fait, avec un budget pour financer vos meet-ups, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. C'est un petit budget annuel qu'on a par pôle, en fait. Honnêtement, c'est pas moi qui s'occupe des finances, donc je pourrais pas en parler un peu plus des finances, mais oui, en général, c'est ça. Puis sur Montpellier, en plus, on a la chance d'être le meet-up en UX qui est le plus actif en France. Donc, ouais, on en profite, quoi.
On a l'impression que les meet-ups se démocratisent de plus en plus. Ça devient, par exemple, à Paris, on voit qu'il y a plus d'un meet-up par jour. Est-ce que tu penses que c'est encore possible de faire un meet-up sans aucun financement, sans aucun budget? Ou est-ce que c'est devenu finalement compliqué parce que les gens ont une attente qui a augmenté par rapport à ces meet-ups?
Non, je pense que c'est possible. Je pense que c'est tout à fait possible. Je pense que le truc, c'est de trouver le sujet qui va attirer les gens, en fait. Et après, je veux dire, on peut faire un meet-up facilement dans un parc où c'est pas nécessaire d'être nécessairement dans une ville du Palais des Congrès. C'est super prestigieux et tout, mais non, c'est sûr que éventuellement, si tu veux grossir, si tu vois qu'il y a un intérêt, il faut du budget. Ça, c'est on n'a pas le choix.
Et donc, par rapport à mon Polytech Hub, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quel meet-up, quels événements vous avez pu aider au cours de la dernière année?
Alors cette année, on a un an et aujourd'hui on a 14 meet-ups qui font partie de notre association, une trentaine de membres environ. On a pu participer, par exemple, on a fait un événement en mai sur l'event storming où il y a deux speakers qui sont venus de Toulouse pour faire un atelier un après-midi avec une quinzaine de personnes. On n'a pas encore eu l'opportunité de faire beaucoup d'autres événements parce que ça prend du temps, déjà le temps de mettre en place l'association, de se faire connaître, d'aller chercher des sponsors aussi pour Montpellier Tech Up, parce que si on peut sponsoriser les meet-ups, c'est que quelque part nous aussi on cherche des sponsors pour nous aider. Et on a également soutenu Sunitech en leur faisant un peu de publicité auprès de notre écosystème, ce genre de choses.
Ok. Et donc justement, donc pour tous ces soutiens, ça demande d'avoir de l'argent. Comment Montpellier Tech Up se finance ?
Principalement, on va voir les sponsors des entreprises locales. On leur demande s'ils ont envie de nous aider. On leur fait comprendre qu'à travers nous, ils vont aider plusieurs meet-ups. Ils peuvent après aussi décider de ne sponsoriser qu'un seul meet-up. En fait, ça va être vraiment leur choix. Et après, on a aussi une autre partie des partenaires salles. On va démarcher des entreprises ou des salles. Et du coup, on a une liste de salles que nos meet-ups peuvent appeler, peuvent contacter pour pouvoir organiser leur événement là-bas. On leur facilite un peu la tâche en étant partenaire de certaines entreprises.
D'accord. Et donc ces entreprises finalement ont accepté le pari de financer Montpellier Tech Hub sans forcément d'ailleurs savoir comment sera utilisé l'argent ou par qui. Est-ce que tu sais si ça a été dur de les convaincre ou est-ce que tu sais si aujourd'hui ces entreprises finalement demandent un peu le reste par rapport à cet investissement?
C'est pas forcément très difficile de les convaincre parce qu'il y a quand même une certaine visibilité qu'ils ont à travers nous. Et surtout, ça leur permet aussi parfois d'avoir accès de partager par exemple des offres d'emploi, ce genre de choses, et surtout de rencontrer des développeurs directement. Et c'est toujours intéressant pour une entreprise de savoir un peu les développeurs qu'il peut y avoir sur Montpellier. Et à l'inverse, pour les développeurs aussi, c'est intéressant de pouvoir discuter avec certaines entreprises qui sont ouvertes et qui ont vraiment envie de participer en fait au meet-up, à l'écosystème tech qui est en ce moment.
D'accord. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer dans l'organisation de meet-up ? On en a parlé un petit peu, c'est quand même quelque chose de chronophage. C'est compliqué à faire. Voilà, au final, on est quand même tous contents de le faire parce que c'est une histoire de passion, c'est un échange, c'est du partage. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui de temps en temps hésitent à venir au meet-up ou encore plus à participer à l'organisation. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour leur donner envie
De se lancer. de se lancer, oui. Et ensuite, je dirais, en fait, c'est important quand on lance un meet-up d'avoir une mission, en fait, d'avoir un objectif à atteindre. Parce que si on fait juste un meet-up pour avoir un meet-up, il y aurait plus d'intérêt. Donc, par exemple, nous, avec les meet-up UX Flupa, notre objectif, c'est vraiment de faire connaître le milieu du UX à Montpellier et de faire un peu de formation aussi pour ceux qui ne font pas nécessairement partie du milieu du UX, mais qui sont des professionnels de près ou de loin. Hein, ça peut être des développeurs, ça peut être des chargés de projet qui, eux, veulent vraiment avoir une approche orientée utilisateur. Et en fait, nous, notre objectif, c'est que d'ici quelques années, vraiment, que le milieu du UX soit vraiment démocratisé. Ça nous permet vraiment de faire un peu d'évangélisation aussi du milieu. Et voilà. Donc, si à la base, on a une mission et qu'on a la motivation, et que, en fait, il n'y a pas de raison, en fait, pour que ça fonctionne pas, en fait. Donc, après, c'est de trouver un bon lieu, avoir du vin, des chips, et voilà, et après, basta, quoi. Ensuite, si on voit l'intérêt, on travaille avec les gens selon l'intérêt des gens, comme nous, par exemple, au départ, c'était plus des discussions sur le UX, voilà, puis à un moment donné, on s'est vraiment rendu compte qu'en fait, les gens, ils voulaient plus de concret, et on s'est rendu compte, on pourrait peut-être faire des ateliers, donc là, on a commencé à faire des ateliers, on a vu, bam, ça a attiré vraiment beaucoup de personnes, on dit, ah ouais, on touche à quelque chose en ce moment, et après, en discutant avec des gens, en allant dans des événements plus tech, à Montpellier, on s'est rendu compte, ouais, mais ça serait cool qu'il y ait par exemple des conférences, que les gens viennent nous parler de leur expérience sur le milieu de travail. Donc, en fait, après, en discutant avec les gens, on se rend compte qu'il y a vraiment la possibilité de faire grossir et d'aller dans une autre direction qu'au départ, on n'avait pas nécessairement pensé, mais toujours en allant vers le même objectif, en fait.
Oui, c'est aussi ça, ouais, organiser, enfin animer un meet-up, oui. C'est s'adapter et toujours.
Toujours.
Vous écoutez FMR? CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous reprenons l'émission Ça fait écho sur le rôle des communautés et des meet-ups dans la construction d'un écosystème logiciel local.
Par rapport à Montpellier Tech Hub, pour cette prochaine année, vu que la première finalement était quand même bien remplie, bien animée et tout ça, Est-ce qu'il y a des projets particuliers que vous souhaitez mener pour les meet-up locales?
Alors, on avait des projets qu'on n'a pas pu, pas eu le temps tout simplement de faire la première année. Par exemple, essayer de développer un peu plus le côté speaker, conférencier, pour favoriser d'une part les gens à venir proposer des talks, en par exemple leur proposant des sessions d'entraînement, où ils pourraient faire leur talk, et puis avoir des retours de d'autres speakers et de public aussi. Il y a ça qu'on aimerait bien essayer de mettre en place et du coup lier pouvoir proposer en fait une liste de talks ou de speakers directement au meet-up qui puissent les contacter. Ah, j'ai vu que tu avais fait ça pour Montpellier Tech Hub, est-ce que tu voudrais essayer de favoriser un peu cet échange là, parce que c'est pas aussi évident de trouver des speakers, de trouver des thèmes pour ces meet-up, donc ça faciliterait je pense la chose. On a aussi un projet de pouvoir filmer facilement les meet-up, parce qu'une fois que le meet-up est passé, il n'y a plus rien, et on trouverait ça important de pouvoir avoir ça sur YouTube, de pouvoir le revoir pour ceux qui ne peuvent pas être là, et puis pour ceux qui sont tout simplement pas sur Montpellier. Donc on réfléchit à mettre en place une solution facile de matériel qu'on pourrait donner au meet-up qui a juste à enregistrer, que ce soit prêt à mettre sur YouTube et que facilement on puisse partager tout ce qu'on se dit sur Montpellier, parce qu'il n'y a pas de raison que ça aille pas plus loin que ça.
Oui, c'est quelque chose qui revient de plus en plus en fait sur les meet-up, de pouvoir garder une trace vidéo. Effectivement, il faut voir la quantité de matériel que ça demande et la complexité. Le producteur de Ça fait écho pourra parler de la partie complexité. Il aura des choses très intéressantes à raconter. Mais il y a peut-être effectivement un setup à trouver le plus simple possible ouais. Pour permettre aux gens de capter leur meet-up. En fait, Montpellier Tech Hub, c'est une question que je pose un peu à vous deux, permet aussi peut-être de faire collaborer et que ces différentes communautés tech en fait travaillent un petit peu ensemble, parce que finalement on voit il y a plusieurs années que les meet-up qui existaient, même si à l'époque ils avaient peut-être un nom différent, étaient souvent des meet-up par rapport à un langage de programmation, par rapport à une techno. Les gens se retrouvaient que entre eux et on avait souvent du mal à fédérer ces différentes communautés. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur Flupa, je trouve ça très intéressant que le meet-up UX cible des gens qui font l'UX ou pas.
Ouais.
Je trouve ça très intéressant aussi quand des gens qui font l'UX viennent à des meet-up un peu tech. Finalement, voilà, des initiatives comme Montpellier Tech Hub ou ce que vous faites vous en ce moment permettent d'avoir des communautés tech qui collaborent. Je sais pas ce que vous en pensez, ce que ça vous évoque.
Ça permet aussi de connaître le métier de chacun en fait, parce qu'on se rend compte parfois dans le milieu du travail que on travaille avec des gens, mais c'est un peu obscur ce qu'ils font. Donc ça permet vraiment de dire ah ok oui je comprends ce que tu fais. Et après quand certains métiers en fait font face à des difficultés, parfois nous dans notre métier on a une solution qui est pas nécessairement directe avec eux ce qu'ils font, mais qui peuvent les inspirer eux. Par exemple, à mon travail, je travaille souvent avec des développeurs et voilà. Et moi, comme je suis plus en UX, tout ce qui touche à l'ergonomie, c'est intéressant pour eux justement quand ils viennent à mes meet-up, parce que justement après, ils ont une pensée un peu plus orientée, ok, utilisateur. Alors voilà, maintenant quand je fais face à une problématique, mais que j'ai pas nécessairement quelqu'un derrière moi, je peux enfin réfléchir et apporter une solution qui va un peu plus loin que ce que mon domaine en général apporte. Donc ça permet en fait d'aller plus loin professionnellement, de parler, puis justement moi, en parlant avec des techs, des devs, ça me permet aussi de comprendre un peu ce qui se passe derrière, parce que moi, à la base, je suis pas du tout tech, moi je viens du milieu des sciences sociales, donc rien à voir, donc ça fait du bien de parler avec des gens qui parlent pas du tout notre langue.
Oui, tout à fait. Mais c'est ça qui est bien aussi dans la tech, c'est que on voit qu'il y a des gens qui viennent de milieux complètement différents, d'études complètement différentes.
Ouais, c'est la beauté de la chose.
Ouais. Et côté Montpellier Tech Hub, est-ce que tu penses que c'était aussi un des buts initial, un peu de regrouper ces communautés, de leur permettre de communiquer entre elles?
Oui, bien sûr. Le but, c'était aussi comme elle le dit très justement, le fait de connaître le métier de la personne avec qui tu travailles, enfin de connaître, d'avoir des notions de ce qu'il fait, ça aide forcément à se comprendre et lui et le développeur, s'ils ne travaillent pas ensemble, ça ne matche pas. Donc c'est clairement, Montpellier Tech Up permet maintenant à sa petite échelle, parce que tous les meet-ups de Montpellier n'en font pas partie, mais ça permet quand même de connaître en fait facilement, ah il y a ce meet-up là demain soir, ah, bah même si je sais pas trop ce que c'est, bah je vais aller voir ce que c'est, on sait jamais, ça peut être utile, ça permet d'avoir une ouverture d'esprit, ça peut être que bénéfique.
Tout à fait, ouverture d'esprit, curiosité.
C'est ça.
Ouais. Donc nous avons vu en fait comment se passer un petit peu l'envers du décor sur l'organisation des meet-up, les gens qui sont derrière. On a vu qu'il y a toutes sortes de meet-up, et des meet-up où on parle de Big Data, de Spark, de GraphQL, des dernières technos à la mode, du UX, de test utilisateur. Mais en fait, tout ça constitue qu'une partie de la vie locale tech. Il existe d'autres communautés qui organisent des événements plus grands que des meet-up. Il y a également des communautés qui organisent des événements business. Thomas est allé à Toulouse à la rencontre de Digital Place, qui accompagne les sociétés du secteur du numérique en Occitanie. Je vous propose de regarder le reportage.
Alors, les communautés de développeurs à Toulouse, c'est quelque chose d'assez dynamique, ça c'est clair et net, il se passe beaucoup de choses. On va avoir le sujet data, les sujets DevOps, les sujets web, les sujets Java, ainsi de suite. Et parfois, ma petite frustration, c'est le manque de communication qu'il peut y avoir entre les différents groupes. Je regarde avec beaucoup d'intérêt ce qui s'est fait à Montpellier avec le Montpellier Tech Hub. Et on voulait chacun séparément depuis quelque temps faire un événement sur une journée un peu toute techno confondue. Et donc à trois, on s'est dit qu'on avait peut-être la masse critique pour faire quelque chose. Donc ouais, pour le coup, c'est vraiment un événement qui est organisé sur un effet communautaire parce que plus de la moitié de l'équipe est de toute façon impliquée dans ses propres meet-ups toute l'année. Ça amène plein de difficultés de gestion, de coexistence parfois, mais du coup, je pense que c'est une des raisons qui fait que le DevFest fonctionne aussi bien. Après, le deuxième souci, ça reste quand même l'argent, dans le sens où plus l'événement va être convivial, plus ça va faire venir de monde, parce que de fil en aiguille, les participants vont garder un bon souvenir et vont revenir au suivant, pas que pour l'aspect technique et du contenu, mais aussi pour y venir chercher un supplément d'âme. Et ça, clairement, ben, il faut trouver des sponsors pour pouvoir payer les pizzas, pour pouvoir payer la boisson en fin de meet-up, et pour pas faire je fais deux conférences et après les conférences je rentre chez moi, parce que ça, le format épuise assez vite.
Le manque de moyens est régulièrement pointé du doigt par les organisateurs de meet-up et de conférences partout en France. Alors que les collectivités investissent à grand renfort de communication dans le numérique, peu de ces événements reçoivent du soutien. Les dépenses sur lesquelles les pouvoirs publics communiquent sont en fait celles des budgets économiques. La métropole de Montpellier englobe par exemple ces dépenses dans son enveloppe de 35,6 millions d'euros pour l'économie, l'innovation et l'attractivité. Politique de soutien aux entreprises qui existent depuis longtemps et qui disposent désormais d'un nouveau vernis numérique.
Vraiment, sur le numérique, il y a deux niveaux d'animation. Tu as l'animation plutôt tech et métier, on va dire. Et après, où là, c'est auto-organisé. Et après, tu as une animation plutôt business, avec des structures à Toulouse comme la nôtre, la Mêlée, la IoT Valley, des structures donc associatives ou des structures parfois privées, les différents incubateurs privés que peuvent être le BizLab ou une structure comme le Visage by CA, qui propose chacun sur son écosystème de l'animation. C'est souvent des animations qui sont tournées sur les adhérents de la structure.
Digital Place, c'est le cluster des entreprises numériques d'Occitanie, créé en 2011 sous l'impulsion des pouvoirs publics en Midi-Pyrénées, donc labellisé par l'État dans le cadre d'un appel à projet grappe d'entreprise. C'est de partager des idées, c'est de rencontrer d'autres entreprises, c'est de pouvoir mettre en place ensemble des projets communs, parce que tout seul c'est difficile de se faire entendre, notamment auprès des pouvoirs publics, pour pouvoir obtenir des aides, notamment des aides financières. Notre rôle aussi au cluster, quand on monte un projet, c'est d'identifier les verrous sur un sujet donné et de les faire sauter. On a cette capacité à construire des dossiers qui sont solides, qui sont pertinents, qui proposent des vraies solutions opérationnelles et concrètes pour les entreprises et qui vont dans le sens du développement de la filière, donc qui sont convaincants pour les pouvoirs publics. Donc grâce à la structure associative de Digital Place, on a cette capacité à obtenir de l'aide financière sur les dossiers, aide financière qui derrière sert aux entreprises. Donc on va avoir des actions d'animation, donc de façon récurrente, tous les mois, on donne des rendez-vous sur des thématiques à nos adhérents. Donc ça peut être des ateliers autour du financement, de la trésorerie de l'entreprise, des ateliers autour de l'innovation, de projets innovants. Donc on a aussi des meet-ups sur la com et le marketing, sur la valorisation des données, sur l'usine du futur. Voilà pour la dimension plutôt animation. On a une offre de formation qui permet à la fois aux chefs d'entreprise de se renforcer, mais également de devenir plus pertinent dans leur pilotage, notamment autour de tout ce qui va être SaaS, de pouvoir faciliter les levées de fonds. Notre mission, elle est à la fois là, d'aider les entreprises à passer des caps de croissance, à réaliser leur potentiel, à pouvoir recruter, et puis de permettre qu'au niveau collectif, le secteur d'activité soit plus connu et de trouver des leviers pour mettre en place des actions de développement. Comme nous, aujourd'hui, on est plus de 200 adhérents, il y a effectivement quelques thématiques qui se recoupent. Ce qui va toujours intéresser les entreprises, forcément, c'est se développer, donc c'est rencontrer des clients. Aujourd'hui, il y a un sujet qui est majeur pour rencontrer des clients, c'est la transformation numérique, puisqu'il y a des mutations profondes qui doivent être opérées dans certains secteurs d'activité. C'est aussi à ça que de servir Digital Place, c'est de faire gagner du temps aux entreprises qui n'ont pas besoin de se poser la question « avec qui je vais travailler ?». Ils disent, voilà, Digital Place a proposé ce dispositif-là. Il y a une facilité financière. Je sais déjà ils ont sélectionné pour moi les profils compétents. Ça me fait gagner du temps.
Vous écoutez FMR. CCPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous reprenons l'émission Ça fait écho sur le rôle des communautés et des meet-up dans la construction d'un écosystème logiciel local.
Et donc, nous nous retrouvons maintenant pour cette deuxième partie de l'émission, toujours sur la vie locale tech et les communautés du numérique. Et nous nous retrouvons avec un deuxième plateau composé de Loïc Talon, qui est président de SonyTech, et de Thomas Fraisse, qui est directeur général de French South Digital. On le verra plus tard, donc un groupement d'entreprises du numérique en Occitanie.
Bonjour.
On a prévu un petit peu les questions d'abord pour toi Loïc et ensuite pour toi Thomas, mais je l'ai pas dit en première partie, n'hésitez pas à réagir à ce que dit l'un ou l'autre. Voilà. On a une première question toute simple par rapport à SonyTech. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce que c'est SonyTech et depuis quand ça existe?
Alors pour en dire en quelques mots, parce que sinon je pourrais en parler pendant quelques heures. SonyTech, donc c'est un événement, donc à la base c'est une association qui est entièrement bénévole, donc c'est que des bénévoles, qui est représenté depuis juin 2017. Donc on a décidé de se réunir en juin 2017, on a créé une association, on a essayé au départ de se rassembler aussi de Montpellier Tech Hub, qui était en cours de création justement à ce moment-là. Mais pourquoi on a créé SonyTech? Tout simplement, c'est quelque chose, ce qu'on voulait faire, en fait, c'est quelque chose qui n'existait pas, mais surtout qui était assez conséquent dès le départ à mettre en place. Donc du coup, l'idée, c'était un peu compliqué, en plus, avec la création de Montpellier Tech Hub, mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que dans SonyTech, on a plusieurs membres de Montpellier Tech Hub, dont le président. Ici, je pense qu'on est cinq de SonyTech représentés aussi. Donc voilà, on essaye de représenter un peu toute la communauté de Montpellier, du moins, toute. On essaye de prendre au plus large. On est 20 bénévoles. Comment ça a été créé? En fait, ça s'est créé, c'est un ensemble. Tout est parti d'un petit tweet, je dirais. Tout est parti d'un petit tweet où, moi, en rentrant de Devox, j'ai eu la surprise en échangeant avec des organisateurs de Web2Day, qui étaient étonnés, en fait, de voir une communauté active sur Montpellier. Donc, du coup, une présence active de meet-up. Et ça, c'était pas possible. Donc, il y avait un manque de rayonnement au niveau de la communauté tech de Montpellier. Donc voilà, du coup, en postant l'intérêt, voir est-ce que ça pourrait intéresser la communauté tech de Montpellier d'avoir son propre événement, de suite, tout le monde a répondu positivement. Et c'est comme ça qu'on s'est regroupé une vingtaine de personnes de plusieurs sociétés. Mais surtout, ce qui est à retenir, c'est que les membres de SunnyTech font partie des principaux meet-up aussi de Montpellier. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment de faire rayonner la communauté tech de Montpellier et apporter quelque chose aussi à cette communauté. Donc c'était dommage qu'elle ne soit connue que par la communauté elle-même. Voilà, il fallait la faire rayonner à l'extérieur. Voilà, donc tout part de là, à la base.
Ok, donc c'était en ça que c'était si important que ça, en fait, d'avoir un événement tech à Montpellier. Et également, le fait que ce soit une initiative bénévole, est-ce que ça avait réellement une importance aussi ?
Je dirais que oui, c'est important, parce que un événement qui est porté par une société ou par un organisme qui est plus à des vocations business, ça n'a pas la même portée. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose où on met des valeurs. On veut que ces valeurs, donc les valeurs, nous on n'a rien. En tant que bénévole, on ne veut rien tirer, en fait, de ça. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment aider la communauté, que la communauté se sente représentée aussi, qu'elle puisse faire de la veille, pas obligée d'aller sur du moins aux quatre coins de la France. Voilà. Ce qui est dommage, en fait, sur Montpellier, c'est qu'on est une ville labellisée French Tech, et on était l'une des seules villes labellisées French Tech qui n'avait pas son événement propre, à proprement parler, tech.
De grande ampleur. Des fêtes,
ouais,
Toulouse.
Des fêtes, des Vox, Rivera Dev, etc. Ouais. J'en passe. Mais voilà. Donc, il nous manquait ça sur Montpellier. Donc, l'idée, c'était vraiment d'apporter ce manque. Et il y a plusieurs intérêts après. Je sais pas s'il y a des questions liées à ça, mais il y a plusieurs intérêts aussi à proposer un événement comme ça. C'est déjà faire rayonner la communauté tech. Donc, ça veut dire faire aussi venir des entreprises, puisque les entreprises, le fait de voir qu'il y a une communauté tech très active, ça les intéresse. Donc, ils vont essayer de venir se positionner, mais ça permet aussi de faire venir des personnes, donc des techs, assister à cette conférence et découvrir aussi la communauté et les entreprises aussi. Donc voilà, je pense que tout le monde y tire quelque chose, en fait, de ça, que ça soit tech et non tech avec les entreprises. Voilà, on essaye de n'oublier personne.
Ok. Donc Gilles, qui donc n'est pas là ce soir, à qui de nouveau on fait des bisous, nous avait fait passer un message. Il a dit SunnyTech, j'y étais, c'était super. Tu remets ça l'année prochaine ? Enfin, l'équipe de SunnyTech remet ça l'année prochaine ?
Ça, on a rien à cacher. Tout le monde le sait qu'on remet ça. Pour nous, c'est une aventure. Là, ben Lauriane qui y était, Estelle qui y était, Bab. Qui était aussi, hein. Voilà.
Spoil.
Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui étaient, qui font pas partie de l'association. Franchement, nous, en tant qu'organisateurs, on s'est éclaté. On a eu le SunnyTech Blues en plus quasiment tous après. Franchement, le week-end qui a suivi, c'était horrible. Et même plusieurs jours après, tout le monde se demandait on n'a pas nos réunions. Voilà, il fallait un peu de vacances quand même, parce que c'était épuisant quand même.
Ça marche. Effectivement, c'était un très bon événement. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les principales difficultés que tu as rencontrées, enfin que l'équipe, c'est compliqué, que tu as rencontrées du moins dans l'organisation de SunnyTech, et comment du coup tu les as résolues?
On va dire déjà la première difficulté, c'est que c'était le premier événement du genre sur Montpellier. Et directement, on avait mis la barre assez haute en voulant viser 350 participants. Du moins, je dis, on se l'est mis très haute, mais on l'a atteint. On a atteint les 350 participants. Donc du coup, la première problématique, c'est un événement, ça se paye. Donc, comme on pouvait, comme tout à l'heure, ça a été discuté. Les locations de salles, tout ce qui va autour, c'est payant. Ce n'est pas gratuit. Du coup, c'était le financement. Donc le financement, certes, il y a la billetterie, puisqu'un événement, on ne pouvait pas le faire gratuitement. En tout cas, pour la première année, ce n'était pas possible. On verra peut-être dans plusieurs années, mais voilà. En tout cas, il fallait le financement, donc la billetterie. Mais surtout, bah, c'est un peu comme Montpellier Tech Hub, ce qu'il faut, c'est des sponsors. Donc les sponsors allaient leur vendre l'idée d'un événement où il n'y a rien.
Quand c'est la première édition, c'est un peu
voilà,
plus
c'est
compliqué.
C'est la première édition, donc il faut réussir à les motiver, mais surtout à ce qu'ils aient confiance en fait en ce qu'on veut véhiculer. Et en fin de compte, ça n'a pas été si dur que ça. Au début, on s'était dit que ça serait très 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 compliqué en termes de sponsoring. Bon, il y a des sponsors qu'on n'a pas pu avoir puisque justement ils se sont dit c'est la première année, du coup on verra les années futures. Mais en tout cas, en termes d'objectifs, on a réussi à les atteindre justement grâce au sponsoring aussi. Voilà. Après, c'est pareil. On avait fait une demande de subvention. C'est pareil, la première année, avoir une subvention de l'agglomération ou de la métropole, c'est compliqué. Donc du coup, on n'en a pas eu. Mais voilà, on a réussi avec le sponsoring à pallier à ça. Après, c'est pas pour autant que la métropole et l'agglomération ne nous a pas aidés, puisque ils nous ont aidés plus sur tout ce qui est communication.
Ok. Donc les soutiens de Sunitech ont essentiellement été des entreprises privées.
C'est ça.
Ça marche.
Du moins, entreprises privées. Après, il y a les associations, Montpellier Tech Hub, la communication, faut pas l'oublier. La communication est importante aussi. C'est bien le financier, mais la communication est importante aussi. Donc, on a eu des associations aussi qui nous ont relayés, dont Montpellier Tech Hub. Après, on a eu des sites aussi qui nous ont relayés. Voilà.
Est-ce que tu as connaissance de villes où la French Tech a été à l'initiative ou a participé activement à la création d'un événement tech
Alors, la French Tech. Je peux pas non plus l'affirmer à 200%. Je sais juste, par exemple, que pour du Scala.io, la French Tech de Lyon, du coup, participe en se chargeant en fait de la soirée communautaire. Voilà, c'est des choses comme ça. Après, French Tech, pas forcément directement. C'est toujours compliqué en fait d'avoir la part de vérité aussi dans ces événements-là. Il y en a qui vont où tout va être public et d'autres où c'est un peu plus compliqué. Je peux pas le garantir. En tout cas pour Scala.io c'est sûr, mais voilà pour d'autres événements.
Ouais, je crois que au DevFest Nantes, la French Tech Nantes est très active, mais je sais pas s'ils étaient à l'initiative par exemple.
Peut-être que Estelle serait.
J'en ai justement discuté avec l'un des organisateurs du DevFest Nantes il y a pas longtemps, parce que vu qu'on remet le couvert pour Sunitech, on se posait ce type de questions-là. Et c'est vrai que cet organisateur nous a parlé que, alors je sais pas exactement si c'est la région ou la ville, mais en tout cas ils sont très impliqués au niveau financier aussi. Il m'a pas parlé de French Tech, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que grâce à ça et bien sûr grâce aux sponsors aussi des sociétés et des associations, ils peuvent se payer un palais des congrès pendant 2 jours avec 1600 personnes. Donc je veux dire que on en est très loin avec Sunitech, mais ce qui est sûr c'est qu'ils arrivent à avoir un soutien de la ville et ou de la région, et en tout cas ça marche.
Après, si je peux juste ajouter un mot sur la French Tech, je pense que c'est pas forcément le premier rôle des métropoles French Tech de favoriser ou d'organiser ce genre de meet-up. C'est vraiment identifier les startups qui ont le potentiel de croissance, de scale-up à l'international rapidement, sur un périmètre qui est national dans chaque métropole. Après, l'organisation a été métropole French Tech a une organisation un petit peu différente, etc. Donc après, comme les gens sont dans les mêmes communautés, etc., il peut y avoir des gens qui vont favoriser un événement ou pas. Mais globalement, je dirais que la French Tech met en avant les entreprises dans lesquelles il y a des gens qui font des meet-up. Voilà, plus.
Ouais, tout à fait. Ça. C'est ça. Et c'est aussi l'idée de cette émission de ce soir, c'est d'échanger comme ça sur ces groupements publics et les meet-up associatifs, et donc de voir justement quel lien on pourrait imaginer, quel lien arrive à se faire dans des villes comme Nantes. Je pense que ça pourrait être un objectif pour Montpellier, d'essayer d'avoir peut-être plus de liens avec la French Tech Montpellier.
Ben, tout à fait.
Et d'avoir un partenariat sur Sunitech, peut-être voilà que la French Tech aide dans la recherche de salles, parce que ça a dû être une grosse complexité, j'imagine, pour Sunitech.
Oui, après, pour rebondir là-dessus, la French Tech, même si elle n'a pas participé d'un point de vue financier, nous a quand même aidé d'un point de vue communication. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas que le financier qui compte. S'il y a l'argent, mais que derrière la communication, on n'en a pas, ça ne sert à rien. Donc voilà, elle nous a quand même aidé là-dessus. Après, nous, on s'attendait pas à plus forcément. Voilà, nous, ce qu'on voulait surtout, c'est que pour un pôle labellisé, du moins une ville labellisée French Tech, pour nous, il y a dans French Tech, il y a Tech. Donc c'est bien qu'il y ait le côté entrepreneur qui soit mis en avant. Souvent, on va parler du BIC avec Cap Omega, etc. Mais voilà, il y a une communauté Tech aussi sur Montpellier, il ne faut pas l'oublier. Et on a l'impression que souvent, c'est ce qui se passe, c'est que la communauté Tech de Montpellier peut être oubliée, voilà. Ou en tout cas, peut-être que ce qui manquait, c'était justement l'idée d'organiser ça. Donc avec Montpellier Tech Hub, avec Sony Tech et d'autres associations, ça va bouger. Mais en tout cas, je pense qu'on prend, on est sur la bonne route.
On complète un peu et peut-être qu'un jour, ce sera pas complété, ce sera plutôt qu'on travaillera ensemble. On va voir ce que ça va donner dans les prochaines années.
C'est ça. Ben, par exemple, Digital Play, ça arrive très bien à le faire avec le DevFest. Julien, qu'on a vu, qui parlait tout à l'heure, est chef de projet chez Digital Place. Il est organisateur, il ne faut pas l'oublier, de DevFest Toulouse. Donc, comme quoi, les deux peuvent cohabiter sans problème, en tout cas.
Tout à fait. Mais finalement, ça rejoint ce que tu disais. C'est-à-dire que parfois, c'est des gens qui sont actifs dans une French Tech d'une ville et oui. qui également sont investis dans un événement ou dans un meet-up et qui, du coup, en profitent finalement pour faire travailler la French Tech sur ces événements.
Oui, parce que quand il y a l'envie de s'impliquer dans sa passion, que ce soit quel que soit le code ben on a envie de partager ses connaissances, de rencontrer d'autres personnes et du coup assez naturellement on organise un meet-up et en fait ça profite à tout le monde. Alors juste je voudrais revenir sur un petit point parce que je veux pas dire que ça m'a choqué mais ça m'a quand même un petit peu interpellé. C'est cette opposition un petit peu que vous construisez entre les communautés tech et business. Et je pense que c'est dommage et qu'on a mieux à faire à travailler justement ensemble. Et je vais vous expliquer pourquoi. French South, on représente et on structure la filière numérique en Next Languedoc Roussillon. Et dans quelques mois, on va fusionner avec Digital Place, donc sur tout le périmètre de l'Occitanie. C'est une association qui est créée par des chefs d'entreprise du numérique pour développer la filière, ça veut dire le business des entreprises, l'attractivité du territoire, parce qu'il y a une vraie problématique pour embaucher des gens et de plus en plus faire venir des gens de l'extérieur de la région, parce que on a des super écoles, mais ça suffit pas pour amener tous les profils. Et on est quand même sur des métiers en tension et il n'y a pas 36 développeurs ou spécialistes de différents domaines disponibles sur le marché du travail aujourd'hui. Les entreprises ont du mal à recruter. Et donc on a tous besoin de développer l'attractivité des entreprises de Montpellier, du territoire, etc. Les meet-ups sont un vrai élément d'attractivité. Dans les travaux qu'on a fait, dans les études qui ont été publiées là-dessus, un Parisien aujourd'hui, je mets un Parisien, mais ça peut être, le Parisien générique, on va dire. Il y en a 80% des développeurs et des cadres IT qui rêve de venir s'installer dans le sud pour profiter de la qualité de vie, le soleil, tout ça, ça a été bien compris. Derrière, il y a des freins et il y a des idées reçues surtout. Et dans les idées reçues, il y a notamment le principe du suicide social et professionnel. Ça veut dire que un développeur qui s'éclate dans des projets sur Paris, il a quand même l'impression que s'il vient de travailler sur Montpellier, il va être sur des projets moins importants, moins intéressants et qu'il va rien se passer au niveau tech, meet-up, etc. Effectivement, il y en a beaucoup sur Paris, c'est normal, puisque avec la masse d'entreprises tech qu'il y a sur Paris, il y a énormément de meet-up. Mais ça nous fait aussi prendre conscience que on ne donne pas assez de visibilité aux meet-ups qui sont organisés sur Montpellier, parce qu'il y en a quand même vraiment pas mal, et le travail que vous faites là-dessus, il est génial, et que c'est un vrai élément d'attractivité pour faire venir des gens, ça sera pas le facteur déclenchant, mais ça sera un élément de plus qui va leur permettre de se dire, tiens, je tente, je viens, parce que il se passe des trucs, et parce que c'est une région qui bouge vachement dans la tech. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et, dans la mission globale de la filière numérique, et la structuration de filière, développer le business des entreprises, bien sûr, développer l'attractivité du territoire, parce que ça fait partie de ces missions-là. Et on a des actions et on aide déjà l'Agile Tour, par exemple. Ils n'ont pas d'association créée. C'est nous qui portons toute la partie comptable, financière, etc. de l'association pour eux, pour leur rendre service, pour leur permettre de rendre l'événement possible. Voilà. Donc, quand on peut s'impliquer là-dessus avec nos moyens aussi, parce que ne serait-ce que nos moyens humains, hein, on parle du problème du temps, c'est un vrai problème pour tout le monde, c'est sûr. Quand on peut contribuer et aider là-dessus, on le fait avec grand plaisir. Et il y a un autre point, c'est que dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez, je pense à Luncher, Genapi, etc., ces entreprises qui sont adhérentes au cluster. Donc c'est des entreprises qui payent une cotisation pour profiter des actions du cluster. Et ce qu'on n'a pas encore réussi à faire, c'est que vous soyez au courant de ça et que vous utilisiez cette adhésion pour organiser des trucs et pour qu'on fasse des choses ensemble.
Justement, ça fait partie des questions qu'on avait.
Ah bah très bien.
Est-ce que tu peux peut-être juste brièvement nous rappeler qu'est-ce que c'est Franchise Digital et quels sont les objectifs? Tu viens de nous en parler un petit peu, mais peut-être juste nous le rappeler brièvement.
Donc le premier objectif, c'est de structurer et développer la filière des entreprises du numérique. Voilà. Le numérique, c'est très vaste, évidemment. Il y a des entreprises en plein domaine et il y a des secteurs particuliers qui sont particulièrement dynamiques sur le territoire, qui se structurent, qui émergent ou qui arrivent dans des phases de maturité. Je pense à l'IoT, je pense à la cybersécurité, je pense à la PropTech, etc. Et donc on essaye de favoriser des réunions collaboratives entre les entreprises d'un domaine pour monter des actions communes. Voilà. Les actions, ça peut être de faire une cartographie des compétences du domaine, de la filière. Ça peut être d'aller ensemble sur un salon professionnel avec pour les entreprises, etc. Ça peut être plein de choses différentes. Voilà. Ça, c'est la première mission. On a une mission. En tout cas, on essaye d'animer l'écosystème et de faire en sorte que l'écosystème bouge, que les gens se rencontrent. Parce que quand les entreprises se rencontrent, il y a du business qui se crée, il y a des collaborations entre entreprises parce que les entreprises ont besoin d'une techno qui va être parfaitement maîtrisée par une startup qui arrive au BIC par exemple, et un grand groupe a besoin de faire un POC et il va avoir besoin d'une techno, d'une compétence ou de quoi que ce soit. Et quand les chefs d'entreprise ou les entreprises se rencontrent, elles peuvent imaginer comme ça des futures collaborations, et c'est un élément qui est absolument fondamental dans la dynamique de l'écosystème. Dans cette animation, on essaye aussi de sensibiliser les entreprises et donc les salariés des entreprises à des grands sujets qui sont à la fois des éléments de compétitivité mais qui sont des éléments sociétaux. Je pense à la mixité dans le numérique, et là je suis très heureux de voir qu'il y a beaucoup de femmes autour de nous et dans la communauté tech active. Je pense que la proportion d'hommes de toute façon dans la communauté tech, comme partout dans le numérique, est très forte. Mais quand je vois qu'il y a autant de femmes actives, c'est un vrai signal et c'est très très important. Donc on essaye d'avoir des actions pour favoriser ça, pour aller raconter ça dans les lycées, pour créer des vocations aussi, pour pas que ça soit des métiers dans lesquels les jeunes filles se disent « c'est pas pour moi ». Voilà, c'est des métiers de barbus, de développeurs, etc. Il y en a plein, c'est super, mais c'est bien aussi que ça soit des métiers qui tendent vers la mixité parce que c'est un élément de performance pour l'entreprise. Je veux pas faire mon défenseur des patrons et de la compétitivité, mais on est vraiment convaincu que un développeur qui se sent bien dans sa boîte, à qui l'entreprise va donner un petit peu de temps pour organiser un meet-up, pour avoir des activités un petit peu parallèles à son activité propre de développeur, il sera bien dans la boîte. Déjà, ça va le fidéliser, il va rester. En plus, il va devenir plus performant dans la boîte parce qu'il saura qui contacter quand il a un problème technique, etc. Il sera pas tout seul avec son équipe. Donc, c'est un élément qui va améliorer la compétitivité de l'entreprise. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que tu parlais de valeur tout à l'heure. C'est exactement la même chose qui nous anime. On veut que les gens travaillent ensemble, organiser des ateliers collaboratifs sur le bonheur au travail, sur la mixité dans le numérique, sur le Green IT. C'est un enjeu majeur de comment le numérique est aussi un élément de solution et de performance dans les comportements éco-responsables et comment on peut intégrer des démarches d'éco-conception dans des solutions et des services numériques. Très très vite, au-delà de la salle serveur qui consomme moins d'électricité, à travers même le développement d'une application, on peut optimiser le code pour avoir moins de ressources qui est utilisée, pour avoir moins de données échangées, etc. Et c'est de plus en plus quelque chose qui est important. On essaye de sensibiliser les entreprises et donc la communauté tech et les dirigeants des entreprises à ces sujets. Voilà. Et là-dessus, je pense qu'on peut être vachement complémentaires aussi.
L'intégralité de leur émission est disponible sur le site safeeco.fr. Ou sinon, suivez la fiche de cette émission sur notre site cpu.pm. C'était CPU, l'émission Carré Petit Utile de Radio FMR, avec cette semaine une reprise de Ça fait écho. L'équipe de Ça fait écho était composée de Gilles Roustan, animateur excusé, Jérémy Barthes, animateur suppléant, Réginald Costa, chef opérateur, Thomas Gasque, réalisateur, avec l'aide de Brice Favre, l'espace French Tech de Montpellier et Montpellier Tech Hub. Réalisation pour CPU, Best Reach. L'intégralité du programme, les extraits, les interviews et la documentation sont disponibles sur leur compte YouTube. Les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est là pour ça. Prochaine release de CPU, jeudi prochain à 11h. Si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est presque midi. Nous cédons le micro au meet-up du monde littéraire animé par la pétillante Monique Blanquet, dans son impromptu cultivé. Ciao, bye bye.